Chronique Histoire, Marcel Dugas, ça vous dit quelque chose? Notre chroniqueur Histoire est de retour pour notre plus grande joie. Il sera à l'antenne un mardi sur deux, comme je le disais tantôt. Bonjour et re-bienvenue, Marcel.
Bonjour, ben, je suis très content d'être de retour, de vous retrouver, de retrouver votre auditoire.
Ah bien, ça commence bien aujourd'hui. Vous allez nous raconter une histoire, j'allais dire, abracadabrante. En d'autres circonstances, ce serait un fait divers que vous nous présentez là. Un Australien qui se noie en allant faire de la plongée, mais c'est l'identité de la victime qui transforme le fait divers en fait historique.
Ça aurait pu être une histoire banale, ce ne l'est pas. Ça cause toujours une certaine commotion quand un chef d'État ou un chef de gouvernement meurt en fonction. Commotion dans la classe politique, bien sûr, mais aussi dans la population, parce que ça arrive très rarement. Même s'ils élisent des hommes toujours plus âgés à la Maison-Blanche, ça fait 80 ans qu'on n'a pas vu un président américain mourir en fonction de causes naturelles. Au Québec, on a eu une mauvaise période. Il y avait eu Maurice Duplessis, Paul Sauvé et Daniel Johnson père, tous les trois des premiers ministres de l'Union nationale, qui sont décédés en fonction en moins de 10 ans. Mais ce n'est pas arrivé depuis et ça ne s'était produit qu'une seule fois avant. À l'échelle canadienne, c'est arrivé une seule fois, c'était le vieux Johnny McDonald au 19e siècle. Je pourrais continuer comme ça, mais c'est toujours un choc lorsqu'un chef d'État ou de gouvernement disparaît, et c'est peut-être encore pire lorsqu'il disparaît au sens propre du terme, quand le premier ministre décède et que son corps n'est jamais retrouvé. Oh. Ben, c'est ce qui est arrivé au premier ministre de l'Australie, Harold Holt. Il était né en 1908 dans la banlieue de Sydney, la métropole du pays. Il étudie le droit, mais c'est véritablement un politicien de carrière. Il se fait élire au Parlement pour la première fois en 1935, il avait 27 ans. Il a été réélu à chaque élection jusqu'à son décès trois décennies plus tard. En 1939, il est nommé au cabinet en tant que ministre sans portefeuille, puis il sera ministre du Travail et du Service national. C'est lui qui a présenté le projet de loi créant les allocations familiales dans le pays. Son parti passe le gros des années 1940 dans l'opposition, et lorsque Robert Menzies débute ses 16 ans sans interruption au poste de premier ministre, Holt est un ministre senior dans son cabinet. Il va hériter notamment du dossier de l'immigration, un dossier sensible en Australie, qui a été un pays très ouvertement raciste pendant la première moitié du 20e siècle. En tant que pays semi-indépendant de la Grande-Bretagne, donc le même État où était le Canada avant le rapatriement de la Constitution, l'Australie est créée en 1901 et dès le départ, on applique une politique qu'on appellera, le nom est assez évocateur, la « White Australia Policy », donc la politique de l'Australie blanche. Il y a tout un débat là-dessus. On dit que Holt a enclenché le processus qui a mené à la disparition de la White Australia Policy. Ce ne serait pas vraiment vrai. Il y a eu une détente des politiques discriminatoires d'immigration pendant son mandat, mais elles vont lui survivre. En 1958, il devient ministre des Finances du pays, même s'il n'y avait pas de formation en économie, et selon ce qu'on raconte à son sujet, pas de réel intérêt pour la chose, mais il était le dauphin. Quand on est le dauphin, on nous confie des gros ministères et les finances sont souvent en tête de liste. Peter Menzies prend sa retraite en janvier 1966. Holt est couronné chef du Parti libéral et premier ministre. Il remporte une grande victoire à l'élection de novembre 1966, renforçant sa majorité au gouvernement. Une victoire qu'il doit en partie au fait que le public supportait la participation de l'Australie à la guerre du Vietnam. Holt, c'était quelqu'un qui croyait beaucoup en la théorie des dominos, voulant que si un pays adoptait le communisme, un pays voisin allait suivre, puis un autre, comme une longue chaîne de dominos. Il a développé un rapport personnel avec le président des États-Unis, Lyndon Johnson, et il y avait plus de 8000 hommes des trois branches de l'armée australienne stationnés au Sud-Vietnam à la fin de son mandat.
On peut parler de la vie de, et l'œuvre d'Harold Holt, mais si je ne me trompe pas, Marcel, il fait partie de ces personnes dont les circonstances entourant leur mort ont éclipsé ce qu'ils ont fait de leur vivant. C'est vraiment ça qui fait qu'on se souvient de lui.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est encore plus vrai, étant donné que son passage dans le fauteuil du premier ministre a été bref. Lui qui avait attendu son tour si longtemps, il disparaît en début d'après-midi, le 17 décembre 1967, donc à quelques semaines de fêter le deuxième anniversaire de son accession au pouvoir. Holt aimait la nature. Il aimait l'océan, c'est un grand amateur de plongée, de pêche sous-marine, de snorkeling. Il possédait deux résidences secondaires au bord de la mer, dont une à Portsea, dans le sud du pays, pas très loin de Melbourne. Et ce jour de fin de printemps dans l'hémisphère sud, 17 décembre, là-bas on est au printemps, alors qu'il passait le week-end à Portsea, Holt a décidé d'aller faire saucette à une plage qui s'appelait la plage Cheviot, située tout près. Il était venu bien près de se noyer quelques mois plus tôt, alors qu'il faisait de la plongée, mais ça ne lui avait pas enlevé le goût de l'océan et ça ne semblait pas l'avoir assagi.
Bon, il ne savait pas nager, Harold?
Non, il savait très bien nager, mais ça, il faut faire attention parce que des fois, il disait souvent que cette plage-là, il la connaissait comme le fond de sa poche, ça tendance à nous donner un faux sentiment de sécurité.
Tout à fait.
Parce que la mer était très agitée ce 17 décembre-là, et des quatre personnes qui l'accompagnaient, il y en a un seul qui a décidé d'aller à l'eau, et il a préféré demeurer près de la rive. Les autres trouvaient que c'était pas sécuritaire. Holt, lui, s'est éloigné du bord. Et selon les témoins, il semblait pas être en détresse. Il n'a pas appelé à l'aide ou quoi que ce soit. Il est disparu sous les flots et n'a jamais refait surface. L'autre nageur l'a cherché brièvement, mais il trouvait que c'était trop risqué. Et en dépit du fait qu'il était premier ministre en exercice à ce moment-là, Holt n'avait pas de garde du corps, il n'y avait pas de personnel de sécurité avec lui qui aurait pu donner l'alerte immédiatement. Il n'aimait pas ça. Il trouvait que c'était trop formel, là, avoir des gorilles autour de lui, qui avaient l'air loin du peuple. Il acceptait à regret d'être accompagné lorsqu'il travaillait. Mais pour des week-ends privés comme celui-là, il n'en était pas question. Sa veuve a dit plus tard qu'il ne voulait pas avoir de personnel de sécurité avec lui lors de ses fins de semaine de congé, surtout pour ne pas ébruiter ses multiples relations extra-conjugales.
Oh.
D'ailleurs, une de ses maîtresses se trouvait avec sa fille dans le groupe des quatre personnes qui ont assisté à sa disparition. Mais peu importe la raison, il n'y avait pas de sécurité avec lui.
Puis il n'y avait pas de gilet de sauvetage non plus.
Ah ben non, évidemment, évidemment. Et en 1967, bon, on n'est pas à l'âge de pierre, bien sûr, mais si ça se passait aujourd'hui, les témoins auraient sorti leur téléphone, appelé les secours, ça a été passablement plus compliqué que ça. Les gens qui l'accompagnaient ont dû prendre la voiture et se rendre à une base militaire située pas très loin pour signaler qu'on avait perdu la trace du premier ministre. Là, on a sonné l'alarme, se met en branle une opération de recherche de grande envergure, la police, la garde côtière, l'armée. On avait près de 200 personnes impliquées à la fin de la journée, des bateaux, des hélicoptères. Mais les conditions météo étaient très mauvaises. Il pleuvait, il faisait froid pour ce temps-là de l'année. Et dès le lendemain, on avait pas mal admis qu'Harold Holt s'était noyé, même si les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs jours. Et il n'y a eu aucune perte de temps, n'est-ce pas? La politique, c'est cruel pour ça. Le chef adjoint de la coalition dirigée par Holt s'est entretenu avec plusieurs officiels, dont le gouverneur général du pays, dans la soirée du 17, donc la journée même de sa disparition. Deux jours plus tard, le chef adjoint était assermenté premier ministre. Le 22 décembre, on a tenu un mémorial dans la cathédrale anglicane de Melbourne auquel a assisté notamment le président des États-Unis, Lyndon Johnson. Et heureusement qu'on n'a pas attendu d'avoir la preuve physique du décès pour procéder parce que, comme je le disais tout à l'heure, son corps n'a jamais été retrouvé.
Bon, et comme vous le dites aussi, on était en 1967 et non en 2026. Il n'y avait pas d'Internet pour alimenter ce genre de choses, mais il y a bien dû avoir des gens qui ont cherché la vraie, de vraie explication là, du décès de Harold Holt.
Ah ben oui, un décès inopiné d'un personnage éminent comme ça, combiné au fait qu'on ne l'a pas retrouvé, ça a alimenté moult spéculations et théories du complot. On avançait l'idée d'un suicide, qu'il était écrasé par le poids de ses responsabilités. L'opinion publique, d'abord favorable à l'implication de l'Australie au Vietnam, l'était de moins en moins. Ses successeurs ont d'ailleurs fait face à de grandes manifestations anti-Vietnam. On a dit qu'il était sous l'effet de l'alcool, des médicaments, de la morphine. On a prétendu qu'il voulait disparaître pour refaire sa vie avec une de ses maîtresses.
Ouais.
Pas celle, on présume, qui a assisté à sa noyade, ça aurait été un peu trop évident. Peut-être la théorie la plus amusante que j'ai vue, on a raconté qu'il était en fait un espion chinois et qu'il n'est pas disparu, qu'il est allé, qu'il y avait un sous-marin de la République de Chine qui l'attendait, qui est venu le chercher pour le ramener à la base. On présume qu'il avait terminé sa mission. mais il apparaît qu'Holt, comme bien d'autres avant et après lui, est mort en surestimant sa capacité à faire face aux éléments. D'ailleurs, sa veuve, Zara Holt, née Dickens, qui disait que son mari ne voulait pas de garde du corps pour cacher ses aventures, a rejeté l'hypothèse d'un suicide. Elle a dit que, là je la cite, son mari était trop égoïste pour se suicider. Donc, on peut dire qu'en décédant, Harold Holt a laissé derrière lui un pays en émoi et un mariage qui ne semblait pas très bien.
Non, non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on n'a pas évoqué de Jaws, de requin, qui aurait pu le manger tout cru.
Ah non, étonnamment, non.
Non. Bon, alors c'est toute une histoire, ça, Harold Holt. On ne l'oubliera pas, celui-là, grâce à vous, Marcel Dugas. Bien, ça a été bien intéressant. Marcel, on se retrouve dans 2 semaines.
On se retrouve dans 2 semaines.